Une matinée mouvementée ce mardi dans le centre-ville de Nouméa, une agression devant le lycée Cluny et un accident de la route dans le quartier latin. L'activité des mineurs toujours au ralenti, mais à Nakheti, pardon, on note tout de même de timides avancées. La mobilisation devant le camp Est continue, l'intersyndicale restera sur place le temps du séjour du directeur de l'administration pénitentiaire. La semaine de la mobilité est lancée, objectif réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans la région, l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée vont signer un traité de sécurité pour unifier leurs forces militaires. Et puis du sport avec du cyclisme, les Calédoniens continuent d'animer le Tour Tahiti Nuit en Polynésie française. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Et à la une, les faits divers. Un peu de tension ce matin devant le lycée Cluny au centre-ville de Nouméa. Un jeune élève a été pris à partie par deux autres jeunes, un majeur et un mineur. Ces derniers l'accusaient d'embêter leur sœur. Ils ont bousculé la victime, arraché son t-shirt et l'ont aussi menacé avec une arme blanche. La police est rapidement intervenue et les agresseurs ont été placés en garde à vue. Au chapitre des faits divers, toujours cet accident de la route ce matin dans le centre-ville de Nouméa. Vers 7h, une mère et sa fille âgées de 7 ans ont été percutées par une voiture. En urgence relative, la mère a été évacuée vers le Médipol. La fillette, elle, n'est pas blessée. Les assises de Nouméa, deux hommes comparaissent depuis hier pour une affaire de viol sur une femme sourde et muette. L'un des accusés l'a frappée et violée alors que le second a assisté à la scène sans intervenir. Le ministère public a requis 14 ans de prison à l'encontre du violeur, 3 à l'encontre du deuxième prévenu. Le jury est en train de délibérer. L'activité des mineurs toujours au ralenti. Cela fait plus de 16 mois que les sites de la côte Est sont à l'arrêt, notamment à Nakheti, même si on note de timides avancées. Jean-François Baudin.
La SMN, la société des mines de Nakheti, qui appartient au groupe Balland, a entamé il y a quelques jours le chargement d'un minéralier, le premier depuis de longs mois. Cette inactivité forcée a contraint la SMN à engager une procédure de redressement judiciaire. Le chargement d'un minéralier rendu possible après de longues discussions entre les mineurs, la population locale et les coutumiers ne suffira pas à remettre la société sur de bons rails. Les mineurs qui opèrent à Nakheti travaillent de concert pour que l'activité sur mine et notamment l'extraction de minerais puisse reprendre au plus vite. Pour la SMN, le chargement d'un minéralier est importante mais reste insuffisante si l'activité sur mine ne reprend pas. À Thio, la SLN poursuit son travail pour une reprise d'activité. La société vient de réembaucher 11 personnes. Elles travaillent à la réfection des pistes qui montent sur mine et qui sont devenues par endroits impraticables. Praticable. Une fois le site accessible, la SLN devrait débuter des travaux environnementaux, prémisse à une éventuelle reprise de l'activité minière sur site. Mais là, on parle d'un délai de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.
Direction le camp Est, à présent l'USWINC, FO et l'USTKE sont mobilisés devant le centre pénitentiaire, un mouvement qui doit durer 2 jours à l'occasion de la venue sur le territoire du directeur de l'administration pénitentiaire, Sébastien Cowell, et du directeur interrégional. Une cérémonie doit se tenir à l'occasion de leur visite pour récompenser certains agents de leur engagement lors de la crise de mai et notamment lors des mutineries. Seulement, les syndicats estiment que la liste des personnels mis à l'honneur ne correspond pas à la réalité du terrain. Victor Wayaridri, surveillant au camp Est et représentant de Force ouvrière.
Un mouvement de mécontentement, on va dire, un ras-le-bol par rapport à les événements de l'année dernière, du 13 et 14 mai. Il y avait une mutinerie, 3 collègues pris d'otages. Nous constatons qu'il y a eu une liste de médaillés, des récompensés. Le directeur, le chef de détention, l'adjoint du chef de détention, les brigadiers-chefs ont eu des TOS. Le TOS, c'est les témoignages officiels de satisfaction. Dessus cette liste-là, il y a des noms qui figurent, qui n'ont pas été là pendant les mutineries. Et il y a des noms qui n'y sont pas, alors qu'ils étaient là. Depuis les événements, là, ben, nous, on a toujours été oubliés. Les agents de coursive, que ce soit les surveillants de détention, qui ont bravé le danger. Nous, c'est surtout ça, ce mouvement-là de grogne vers la hiérarchie, la direction. Parce que c'est eux qui ont eu les lauriers. Et pourquoi pas nous? C'est vraiment du foutage de gueule. En langage calédonien, c'est vraiment du n'importe quoi.
L'intersyndicale restera mobilisée le temps du séjour du directeur de l'administration pénitentiaire et boycottera également la cérémonie qui est prévue demain après-midi. Un pôle de formation scientifique et technologique au lycée Jules Garnier qui fait l'objet depuis juin 2023 de travaux de rénovation et d'amélioration. L'établissement a pour projet de créer un pôle scientifique, de revoir les voies de circulation au centre du lycée et de réorganiser une partie de ses enseignements. Les explications de Michel Lehoulier, proviseur du lycée Jules Garnier.
Sur ces travaux-là, on avait vraiment une grosse problématique sur un bâtiment au cœur du lycée et qui était désaffecté depuis des années, en fait, dans lequel il y avait un projet de pôle science. Au bout de 17 ans, on a enfin réussi à créer ce pôle science et on a redistribué complètement les cartes, la carte géographique, avec la vie scolaire qui était en tout début de lycée très mal positionnée, qu'on a centrée sous le pôle science. On a revu les voies de circulation. Quasiment tous les élèves font des sciences. On avait plusieurs labos qui étaient éclatés sur 5 bâtiments, avec du matériel qui parfois avait besoin d'être utilisé dans d'autres bâtiments. Donc on avait des gros problèmes de logistique, de gestion de salles, de gestion de labos. Donc on a vraiment créé ce pôle science pour travailler sereinement, pour pouvoir mutualiser en fait l'ensemble du matériel utilisé en un lieu, hein, et tout le monde est content.
Et pour l'accomplissement de ce projet, le lycée Jules Garnier a sollicité le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'État. Les précisions du haut-commissaire Jacques Billan.
Sur ce chantier, l'État est présent aux côtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes dans un lycée d'importance. Le lycée Jules Garnier, c'est un grand établissement de référence. Ce lycée nécessitait des travaux de rénovation, des travaux d'amélioration de ses bâtiments pour garantir sa performance éducative. Pour accompagner ces travaux de rénovation, l'État s'est engagé dans le cadre du contrat de développement 2017-2023 pour porter à 50% le montant des travaux qui a été retenu. Je rappelle que c'est 705 millions de francs, donc financés à 50% par l'État et par la Nouvelle-Calédonie.
Et notez que les travaux de rénovation ont duré 2 ans et se sont achevés en avril dernier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec la réponse à notre question d'hier. 95% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables au report des élections provinciales à juin 2026. Ils ne sont que 5% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Notre question du jour à présent, après le rejet de l'accord de Bougival par le nouveau FLNKS, êtes-vous favorable à la reprise de discussions entre partenaires locaux ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et puis avant de marquer une pause dans ce journal, notez ce rendez-vous d'antenne. La foire agricole et artisanale de Coumac et du Nord arrive à grands pas. Elle animera le champ de foire dès vendredi, le 19 septembre, jusqu'au dimanche 21 septembre. Les visiteurs découvriront plus de 300 exposants qui seront sur le site avec notamment au programme des jeux équestres, un rodéo nocturne. Et pour parler de cette foire et de son rayonnement, c'est le maire de Coumac, Wilfried Weiss, qui sera notre invité demain matin à 7h30. 17h52, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Info soir, Léo Fichou.
Le magazine Citoyen ce midi était consacré aux Journées mondiales de la jeunesse. Dans 2 ans, les JMJ auront lieu à Séoul, en Corée du Sud. Créées par le pape Jean-Paul II, les Journées mondiales de la jeunesse sont devenues incontournables dans la vie des jeunes adultes catholiques. Pour le père Ken Boirat, sa participation aux JMJ de Sydney en 2008 qui contribue à sa vocation de prêtre.
Ça a contribué en tout cas, puisque les rassemblements sont différents, quels qu'ils soient, le lieu où ils se font, où ils se déroulent, le thème. Et par contre, on retrouve une chose et une seule, c'est le désir d'être avec le Christ. C'est ce qui motive, c'est ce qui anime, et c'est ce qui élève tous ceux qui, dans les difficultés de la vie, peuvent parfois tomber et ne jamais se relever. Et le fait de se sentir utile, je pense que ça relève énormément de personnes.
Autre témoignage, celui du vice-président du comité JMJ, Narcisse Aoutaoulou. Il est revenu sur son expérience lors des Journées mondiales de la jeunesse. Au Portugal, c'était en 2023.
Tout de suite, tu te sens petit parce qu'autour de toi, tu as tout un tas de personnes qui viennent avec la même chose. Donc forcément, l'atmosphère, elle est différente de ton quotidien de tous les jours. Là, tu vis, tu peux limite vivre ta foi sans peur du regard de qui que ce soit. Tu peux vivre ça librement. Et c'est vraiment cet état d'esprit que l'on invite les jeunes GMGistes à partir, vivre cet état d'esprit et de revenir avec.
C'est aussi l'occasion de peut-être de se recentrer quelques jours sur soi-même, de faire le point peut-être sur soi.
C'est l'occasion, c'est le rendez-vous de le faire.
Ouais.
Oui, vraiment de partir, de prendre du recul, de vraiment essayer de sortir de son propre corps, imaginer ça et de faire une mise à jour de tout ce que l'on a vécu. Je prends vraiment ce rassemblement pour une occasion, surtout par rapport à tout ce que notre pays a vécu l'année dernière, pour confier notre jeunesse, notre pays, et vraiment faire que ce soit un exemple. Comme quoi, de toi à moi, le vivre ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà des années qu'on sait le faire, et peut-être à travers cette occasion-là de partir, de voir qu'on continue encore à le faire, et que ça soit vraiment une source d'espoir, source de bienfaits pour les prochaines éditions et pour le futur du pays.
La prochaine édition des JMJ aura lieu du 3 au 7 août 2027 à Séoul. Le thème de cette 41e journée mondiale de la jeunesse est le suivant. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont-d'Or, c'est le 100.4.
Dans l'actualité de ce mardi également, cette grande fête ce matin au groupe scolaire de Boulary, au Mont-d'Or. Une fête un peu particulière à laquelle enfants, parents, agents de l'établissement, mais aussi élus de la commune de la province sud ont participé, Jean-François.
Oui, une fête particulière en effet pour un anniversaire, les 50 ans du groupe scolaire de Boulary. L'école primaire de Boulary a été ouverte en 1975. L'année suivante, c'est l'école maternelle qui a ouvert ses portes et les deux ont été réunis en 2010 au sein du groupe scolaire de Boulary. Une histoire dont tout le monde s'est souvenu ce matin lors d'une grande fête dans la cour de l'école. Epifania Gatta est la directrice de ce groupe scolaire de Boulary.
C'est un devoir de mémoire que l'on doit vraiment à tous les corps de métier, aux familles et aux parents qui ont traversé des générations d'enfants et qui ont fait de cette école un vrai lieu de vie. Donc il fallait mettre à l'honneur cette fête et avec ces périodes difficiles que nous venons de traverser, c'était le coup de fête qu'il fallait avoir cette année. C'est une fois dans ma carrière et c'est surtout de voir que les parents ont répondu présent, les partenaires sont là et puis c'est surtout mettre en valeur le travail de l'équipe, le travail de toutes les équipes pédagogiques et municipales qui ont vraiment œuvré pour que ce jour soit mémorable. Et c'était l'objectif.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre école pour les 50 prochaines années ?
Longue vie.
Le groupe scolaire de Boulary fête donc ses 50 ans aujourd'hui. Un groupe scolaire qui, il y a quelques années, aura été précurseur dans le domaine du rythme scolaire. C'est ce qu'a rappelé ce matin le maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière.
Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, nous avions été retenus par l'État. Et à l'époque, c'était le ministre Guy Dru qui avait mis en place ce projet d'aménagement des rythmes scolaires. Et j'avais eu l'opportunité, puisque à l'époque j'étais salariée de la ville du Mont-d'Or, de mener ce projet avec trois établissements scolaires dont Boulary faisait partie. Ce projet était consacré principalement aux matinées avec les activités fondamentales, les maths, le français, et l'après-midi plus aux activités sportives, culturelles, environnementales. Et cela a permis à des enfants qui étaient parfois très éloignés dans les classes de l'école de pouvoir leur redonner envie de se réapproprier les choses de l'apprentissage pour qu'ils se sentent un peu mieux et justement que l'on lutte contre cet échec scolaire.
Un anniversaire qui s'est déroulé en présence de membres du conseil municipal mais aussi des représentants de la province sud dont Marie-Jo Barbier, présidente de la commission enseignement à la province. Aujourd'hui, le groupe scolaire de Boulary accueille 264 enfants, 184 en primaire, 80 en maternelle.
De son côté, le collège Baudoux organise aujourd'hui un forum des métiers de l'orientation. Ce matin, une centaine d'élèves de 3e et une section découverte des métiers de classe de 4e étaient répartis dans différentes salles où des professionnels présentaient leurs métiers. Différents secteurs d'activité qui ont mobilisé les collégiens et qui ont pu échanger avec les professionnels.
Paul Kinner, je suis en classe de 3e. J'ai pu voir une directrice du Revenue Management et Programmation des Vols Cherquelin, un technicien en communication, et là j'étais à une séance bilingue. Ça permet de confirmer mes attraits pour ces métiers.
Il y a un métier en particulier qui t'intéresse ?
Surtout tout ce qui est ingénierie avec la directrice du Revenue Management et de Programmation des Vols. Cet après-midi, je vais voir un pilote de ligne, un docteur,
et un juge.
C'est Léna Gillet, je suis en troisième au collège de Boudoux. J'ai pu participer d'abord à un ingénieur en chimie analytique et en biologie. Et pour moi, ça a pu permettre de voir d'autres métiers, parce qu'ensuite, je suis allée voir un météorologue. On a pu voir différentes perspectives et ça a aussi pu nous permettre d'essayer de voir d'autres filières, même si c'est pas forcément nos métiers, enfin ce sera pas forcément nos métiers plus tard, ça a permis même à nous de voir d'autres métiers.
Parmi ces métiers qui sont proposés, est-ce que quelque chose t'intéresse en particulier ?
L'ingénieur en chimie et biologie, péricultrice et docteur, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est des métiers concernant la santé. Et j'aimerais bien un jour travailler dans un de ces métiers.
Un forum des métiers de l'orientation qui a refermé ses portes à 15h au Collège Baudoux. Déposer des pétitions pour soumettre des sujets d'études sur des questions locales, c'est ce que propose le CESENC depuis déjà 6 mois au travers de sa plateforme de pétition citoyenne, Jean-François.
Alors un groupe de travail vérifie la conformité de la pétition à la charte de participation et au domaine de compétences du CESE avant que le bureau valide ou non la pétition. Si la proposition est validée, elle doit obtenir 400 signatures en 2 mois pour que le CESE s'en saisisse et travaille sur le sujet. Un moyen d'associer les citoyens à la vie publique, explique Jean-Louis D'Angleberme, le président du CESE.
Cette participation citoyenne, c'était pour rester dans la philosophie de ce que le CESE national est et pourquoi il a été mis en place. Et par ricochet, les CESER de France et nous-mêmes. De Gaulle disait, c'est une démocratie plus large, au-delà des seules élections, un dialogue structuré entre l'exécutif et les forces vives du territoire, et une organisation pour être lanceur d'alerte ou un thermomètre des tensions sociales. Donc cette participation citoyenne qu'on a mis en place, ça n'a pas été simple, va dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, je vous dis, il y a un peu plus d'une trentaine de pétitions. Alors, elles n'atteignent pas le nombre de signatures voulues. Mais ce que je relève, c'est qu'il y a beaucoup de pétitions, par exemple sur les élus, enfin la défiance vis-à-vis des élus, il y a 7 pétitions qui ont été déposées, sur les institutions 4, sur la jeunesse 3, sur le transport 3. Donc on voit que c'est plusieurs pétitions alors que c'est le même sujet. Donc peut-être on a une réflexion à faire dans ce sens-là.
Depuis le lancement de la plateforme, plus d'une trentaine de pétitions a donc été déposée, mais une seule a atteint les 400 signatures en 2 mois. Il s'agit de la pétition sur la culture sacrifiée, déposée après les émeutes 2024 pour protester contre la baisse des subventions accordées au secteur culturel. Récemment, 2 pétitions ont été déposées. L'une est intitulée « Prévenir l'oisiveté d'une partie de notre jeunesse par un engagement obligatoire dans des actions de solidarité ». L'autre concerne l'impact du coût de la vie sur les salaires et les retraites. Si vous souhaitez que le CESE s'empare de ces sujets, vous pouvez signer ces pétitions en vous rendant sur la plateforme pétitionaupluriel.cese.nc. pétitionaupluriel.cese.nc.
La semaine de la mobilité est lancée. Jusqu'à mardi prochain, les Calédoniens sont invités à réduire leurs déplacements carbonés et à privilégier les modes doux et le covoiturage, par exemple. Des animations seront également proposées par l'ADEME, l'Agence Calédonienne de l'Énergie ou encore l'Association Droit au Vélo et la CCI. Un challenge est également organisé sur le site capverzero.nc pour tendre vers le zéro émission de gaz à effet de serre. Caroline Nicolo, représentante territoriale de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie, et Wallis et Futuna.
Le secteur des transports est émetteur de gaz à effet de serre. Nouvelle-Calédonie, c'est le deuxième secteur après la mine et la métallurgie. Il y a la question des gaz à effet de serre et aussi des émissions polluantes. Donc le but, c'est de cette semaine sur l'écomobilité, c'est de sensibiliser les gens sur d'autres façons de se déplacer. C'est vrai que les habitudes sont dures à changer et c'est le but justement de cette semaine, de tester de nouvelles façons de se déplacer en participant par exemple à un challenge d'écomobilité avec le site Cap Vert Zéro NC, c'est une idée, de tester des vélos à assistance électrique pour essayer de réduire l'autosolisme. En gros, c'est être tout seul dans sa voiture.
Et notez que demain, l'association Droit au Vélo proposera une action de roulage à Nouville ainsi que des essais de vélo à l'UNC. Samedi, au Pump Track de Païta, une journée écomobilité sera proposée à destination du grand public. 18h passées de 3 minutes, on marque une seconde pause dans ce journal. On parlera juste après de l'actualité dans la région, mais aussi de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. RRB pour être au cœur de l'actualité.
Il est 18h passé de 4 minutes, tout de suite la fin de votre journal avec Léo Fichou.
L'actualité dans la région avec un rapprochement militaire entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux pays doivent signer demain un traité de sécurité pour unifier leurs forces militaires. Il sera ratifié par le Premier ministre australien Anthony Albanese, actuellement à Port Moresby pour les festivités autour du 50e anniversaire de l'indépendance papoue et bien évidemment par son homologue James Marape. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le ministre papou de la Défense, Billy Joseph, a indiqué que ce pacte va notamment permettre aux deux armées d'unir leurs moyens si la souveraineté territoriale de l'Australie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vient à être menacée. « Nous ne parlons pas ici d'interopérabilité, a-t-il insisté, mais de forces totalement intégrées. » Selon certaines sources, le traité va également inclure la modernisation de la capacité et de la compétence opérationnelle de l'armée papou, ce qui va coûter des milliards de dollars à Canberra. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a précisé que les papous pourront également intégrer l'armée australienne, recevront une solde semblable à celle des soldats australiens et pourront même accéder à la citoyenneté australienne. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On passe au sport avec du cyclisme et des Calédoniens qui continuent de briller en Polynésie française. La sélection du Caillou a animé la première journée du Tour Tahiti Nui, mais aussi la seconde aujourd'hui. Kéryl Moutry s'est échappé seul dès le 20e kilomètre avant d'être repris juste avant la montée finale. Il endosse tout de même le maillot vert de meilleur sprinter, juste devant un autre Calédonien, Hugo Pommelé, mais aussi celui du plus combatif. On notera également qu'après cette deuxième étape, Hugo Pommelé est deuxième du classement des jeunes les moins de 23 ans. On écoute Kéryl Moutry juste après l'étape.
Après le premier sprint intermédiaire, j'ai réussi à partir tout seul. Je pensais que quelqu'un d'autre viendrait avec moi, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai décidé de poursuivre tout seul, parce qu'il m'a permis d'empocher une grande partie des points pour les maillots du meilleur sprinter que j'ai réussi à gagner à la fin de la journée. On a dû limiter la casse pour la fin. On savait que les arrivées au sommet, ce n'était pas forcément fait pour nous. Mais on a quand même donné tout ce qu'on avait et on n'a pas perdu tant de temps que ça sur le maillot du meilleur jeune, notamment Hugo. Pour nos objectifs de demain, bien évidemment, on tient à consolider notre maillot vert avec Hugo, puisque je suis premier pour le classement du maillot vert, il est deuxième. On souhaite récupérer forcément le maillot du meilleur jeune, puisque Hugo désormais pointe à 37 secondes du leader U23. Thomas Rizzolatti est également à 3 secondes de ce podium, donc pourquoi pas essayer de lui faire gagner ces 3 petites secondes pour qu'il monte sur le podium des meilleurs U23 au général.
La troisième étape de ce Tahiti Tour Tahiti Nui est une étape de plat longue de 135 km. Aller-retour Pauaui à Teahupo, l'arrivée annoncée au sprint pourrait tourner à l'avantage de la sélection calédonienne. En football, c'est l'heure du grand départ pour la sélection calédonienne des moins de 20 ans. Les joueurs de Pierrot Joka se sont envolés ce matin pour le Chili. Ils disputeront dès la fin du mois la Coupe du Monde de leur catégorie d'âge. Dans leur groupe, ils retrouveront les États-Unis. Ce sera le mardi 30 septembre à 10h, heure de Nouméa. L'Afrique du Sud, le vendredi 3 octobre à la même heure. Et puis, ils termineront par un duel face à la France. Ce sera le lundi 6 octobre à 7h du matin. On termine avec Sabine Ewegene qui a été désignée athlète BNC du mois d'août, une distinction qui vient récompenser sa performance avec l'équipe de France de volley. La Maréenne a brillé sur la scène internationale lors des championnats du monde en Thaïlande. Je rappelle que les Bleus ont atteint les quarts de finale de la compétition, éliminés par le Brésil, finaliste de lors de la précédente édition en 2022. Une reconnaissance qui honore son parcours marqué par le travail et la persévérance et qui fait la fierté de la Ligue calédonienne de volley. 18h08 après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
et la météo, c'est avec vous Pierre.
Vigilance jaune, vent fort demain en fin d'après-midi sur Païta, Boulou, Paris et La Foix. L'alizée de sud-est se renforcera autour de 25 nœuds avec des rafales de 35 à 40 nœuds, soit près de 70 km/h. Cette nuit, le ciel deviendra dégagé et étoilé sur la côte ouest et l'extrême nord, tandis qu'ailleurs, quelques passages nuageux circuleront, donnant localement une ou deux ondées isolées. Le vent faiblira sur l'ouest autour de 10 nœuds. Ailleurs, il restera bien établi d'est-sud-est entre 15 et 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur la pointe nord. Les températures minimales s'échelonneront entre 13 et 17 degrés dans l'intérieur des terres et de 17 à 22 degrés près du littoral. Demain matin, le soleil s'imposera, ça fait plaisir, surtout sur l'ouest et la pointe nord. Concernant l'est et le sud, le ciel sera passagèrement nuageux avec de rares averses possibles. Le vent basculera au secteur est, soufflant entre 15 et 20 nœuds avec des rafales pouvant atteindre 30 nœuds aux extrémités de la Grande Terre et localement sur l'est.
Merci beaucoup Pierre pour la météo et pour la technique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.